Merci Seigneur pour ces bons moments qu'il nous accorde chaque fois que nous sommes en sa présence. Nous allons continuer de parler du sacerdoce universel. Et je veux relire avec vous Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Un petit rappel des dernières études sur le sacerdoce universel. Nous avions vu que sacerdoce signifie sacrifice, pas de sacerdoce sans sacrifice. Nous avons vu que le sacerdoce rime aussi avec service. Et nous avons vu également, et nous avons insisté sur le point suivant, le sacerdoce rime avec prière. Prière, ce n'est pas récitation de demande à Dieu, ma liste des courses. Hein. La prière, c'est une relation d'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler du sacerdoce qui rime avec connaissance et transmission. On avait déjà parlé de transmission en parlant du sacerdoce. Et je vous rappelle que ces études, en fait, elles consistent à nous rappeler que nous ne sommes plus sous la loi, où il y avait quelques personnes qui étaient désignées pour servir, et particulièrement des leaders qui avaient vraiment de grandes responsabilités sur leurs épaules, et le peuple suivait ces leaders. Et nous l'avons lu dans le livre de l'Apocalypse, clairement, sous la Nouvelle Alliance, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, ressuscité, lui, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus limité à quelques personnes, mais nous sommes tous responsables, tous impliqués, tous au même titre. Et là, il y a un grand amen, parce que vous êtes tous d'accord. Sauf ceux qui préféraient que le travail soit fait par les autres. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Et je pense qu'il y a aussi une culture d'église qui a fait que pendant des années, les responsabilités ont reposé sur le pasteur et quelques personnes. Et en fait, on s'est trompé. On s'est trompé clairement. Et moi-même, je me suis trompé. Et aujourd'hui, je veux vraiment affirmer que nous sommes tous sacrificateurs. Tous. On va lire dans... Alors, Jésus est le souverain sacrificateur, notre exemple. Hein. Donc, tous les points qu'on a vus, le sacrifice, si Jésus ne rime pas avec sacrifice, Jésus, le service, Jésus rime avec service. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour être serviteur. Jésus, souverain sacrificateur, qui est en prière constante avec son Père, et malgré cela, même, il trouve des moments pour s'isoler, on le voit dans les évangiles, pour prier avec lui. Et Christ, souverain sacrificateur, est aussi celui qui a la connaissance parfaite de Dieu et qui a été celui qui est venu nous transmettre cette connaissance. Amen. Et nous devons, à notre tour, le faire. Nous allons lire dans Néhémie, au chapitre 8, et nous allons lire du verset 1 à 9. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il est élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabetai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Amen. Il y a des enseignements intéressants à tirer de ce texte. Je ne vais pas faire le tour de la question, c'est tellement riche, mais je voudrais simplement relever trois points ce matin. Le premier point, c'est que le peuple a soif. J'aimerais vous dire une chose importante ce matin, pour casser un peu tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Notre pays a soif de Dieu. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais c'est ma conviction. Notre pays a soif de Dieu. Soif d'amour, soif de justice, soif de paix, soif de bien-être. Qui peut répondre ? Où est la réponse ? On l'a entendu la semaine dernière, en Dieu seul. Dieu est le seul sauveur. C'était le titre de la prédication de dimanche dernier que j'ai écouté. Parce que je vous dis d'écouter les prédications, mais moi je le fais quand je ne suis pas là. Les jeunes générations, particulièrement, ont soif. J'aimerais vous dire à vous, parents, que vos enfants ont soif. Vos enfants ont soif. Nous avons, si je n'étais pas là la semaine dernière, ce n'est pas que j'étais à la plage, nous étions dans les Pyrénées, c'est pas mal aussi, hein, avec les ados, et nous avons vu une soif chez ces jeunes incroyable. Lorsque le samedi après-midi, je les ai invités à se lever pour ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit, ils se sont levés, et on l'a lu, là dans Néhémie, je ne sais pas si vous avez remarqué l'expression, comme un seul homme. J'ai vu ça, nous avons vu ça samedi après-midi. Alors que nous avons fait l'appel, il y avait 13 adolescents, ils ne se sont pas regardés les uns les autres, il n'y a pas eu un temps d'hésitation, pouf, on les a vus tous se lever et venir pour qu'on prie pour eux. Et moi je dis, les jeunes ont soif. Vous savez que je fais du soutien scolaire et pas plus tard que vendredi, je discutais avec une dame qui est à l'accueil, à la maison citoyenne. Elle m'a posé des questions, elle m'a dit, est-ce qu'il y a des choses pour les jeunes et les adolescents dans ton église ? Je lui ai dit, oui bien sûr. Elle me dit, parce que ma fille me pose des questions, il a fallu que je lui offre une Bible. Une fille de 16 ans. Les jeunes ont soif. Nous le constatons depuis plusieurs mois maintenant, des jeunes arrivent dans l'église sans leurs parents. Sans leurs parents, ils viennent là, ils ont soif. La nouvelle génération se lève, elle a soif. Amen. Amen. Et moi, je veux m'appuyer sur ça et dire, oui, il y a un espoir pour notre pays. Dans ce passage du livre de Néhémie, nous sommes dans le contexte de la reconstruction d'une ville détruite. Néhémie a eu à cœur, en apprenant les nouvelles de Jérusalem, d'abord de jeûner, prier, de pleurer sur cette ville et d'aller sur place pour reconstruire la ville. On est dans ce contexte-là. La ville vient d'être reconstruite, enfin les murailles de la ville. La France est dans un état de ruine spirituelle. Oui ou non ? Est-ce que ça nous fait pleurer ou est-ce que ça nous laisse indifférents ? La réunion a lieu, la réunion dans Néhémie, hein, à l'est de la ville, au sud-ouest du temple, sur un lieu d'ailleurs, ce n'était pas habituel, non sacré, au niveau de la cité de David. On ne sait pas exactement où c'était, mais c'était une place qui devait être suffisamment grande, puisque si vous lisez au chapitre précédent, le verset 7, et le chapitre 7, verset 66, ne l'affiche pas. Hein. Mais vous verrez qu'il est écrit qu'il y avait plus de 42 000 personnes qui étaient réunies. C'est pas mal. Hein. C'est un culte sympa. 42 000 personnes et des poussières. Malgré ce nombre important, je l'ai dit, on note qu'il est dit qu'ils se sont levés et qu'ils ont parlé comme un seul homme. Incroyable, non? Nous, on a du mal à être unis. On est moins de 200. 42 000, et ils parlent tous de la même voix. Amen. Bon, on est unis quand même à Colomiers, je ne me plains pas. Toutes ces années d'errance et de désolation a amené à un désir d'une unité et de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la parole. Et je crois que ce sera autant désigné par Dieu le cas en France, où le pays va tomber tellement bas, il y aura une telle désolation que les gens vont être obligés de venir vers Dieu. Certains ont cru que ça allait arriver avec le Covid, mais le Covid nous a montré une fois de plus le cœur dur de l'homme. Il y a eu pendant les premiers temps une espèce d'émotion là où les gens ne savaient plus où ils habitaient, puis rapidement ils se sont fait au truc. Et il va falloir vraiment que le Seigneur, malheureusement, abaisse encore et amène l'homme dans ses derniers retranchements pour qu'il se tourne vers lui. Le peuple est dans un tellement bon état d'esprit que c'est lui-même qui réclame. Ce n'est pas les leaders qui disent oh, « Allez, venez, on va lire la parole ». C'est le peuple qui dit « Hey, lis-nous la parole oh, ». C'est une super église, ça. Nous avons, ça c'est les commentateurs, nous avons là clairement les signes évidents d'un réveil spirituel. Quand les hommes, les femmes ont soif, quand les enfants ont soif de Dieu. Amen. Au verset 2, le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Les hommes, les femmes, vous voyez, contrairement à ce qu'on a établi pendant des siècles, sur la place de la femme et de l'homme dans l'Église, je vous rappelle qu'il y a eu toute une période où on pensait que la femme n'avait même pas d'âme et qu'elle ne pouvait pas donc être sauvée. C'est fou. Quand on lit les Écritures, ça paraît aberrant d'avoir pu penser une chose pareille. Là, on voit que les hommes et les femmes sont réunis au même niveau. Sacrificateur, ce n'est pas réservé aux hommes. C'est hommes et femmes. Et tous ceux qui étaient capables d'entendre. Alors là, il y a une grande discussion entre les différents commentateurs pour savoir, mais c'est qui? Mais en fait, la plupart, je pense à la Bible annotée, aux commentaires d'Hostie, de la parole de vie, c'est les enfants et les adolescents qui sont capables de comprendre. Donc tout ce monde-là est associé dans le réveil. Amen. Tout ce monde-là est associé. Et ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, si le peuple demande que la parole soit lue, en fait, ils reviennent au fondement et aux bases que Dieu avait fixées. Le premier jour du septième mois, c'est pas anodin que ce soit signalé. Parce que le septième mois, c'est le mois, notamment, il y avait deux fêtes, mais notamment la fête des tabernacles. Et lors de la fête des tabernacles, il y avait un usage qui avait été donné, on va le lire dans Deutéronome chapitre 31, versets 9 à 13. C'est Moïse qui avait institué cet usage sur l'ordre de Dieu. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Amen. Il y a des périodes favorables. On le voit quand on invite des gens à Noël ou à Pâques, bizarrement, ils acceptent de venir à l'église. Les autres moments de l'année, on a moins de succès. Bon, c'est pas toujours le cas, mais il y a des périodes qui sont disposées, il faut savoir les saisir. L'attitude du peuple est incroyable. Au verset 3, il est précisé que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ça aussi, c'est le signe d'un réveil spirituel. quand le peuple est attentif. Quand le peuple a soif et qu'il est attentif. Et puis il est dit ensuite que quand Esdras se lève pour lire la loi, tout le peuple approuve en levant les mains et en disant des Amen. C'est l'église de Colomiers, ça. Ils disent tous Amen à chaque fois qu'on dit un truc. Vous n'avez pas vu tous les pasteurs qui passent? Il n'y a pas que moi, hein, tous les pasteurs qui passent. Ils font Amen et puis ils sont là. Ah, ok. On a le droit de dire Amen. Hein. Ce n'est pas un péché, hein, je vous assure. Hein. Vous ne faites pas une erreur quand vous dites Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord, ainsi soit-il. Et puis encore, le peuple s'incline et se prosterne visage contre terre. Il y a aussi là une précision importante. C'est, alors, évidemment, on va pas, vous n'allez pas vous prosterner visage contre terre à chaque fois qu'on ouvre la parole ici. C'est parce que je demande et je ne pense pas que le Seigneur le demande. Mais c'est un état d'esprit, en fait. Comment on est face à la parole? Comment on considère la parole? Vous savez, quand j'insiste pour que vous écoutiez les prédications quand vous n'êtes pas là sur le site, c'est pas pour dire « Ah mince, il y a quelqu'un qui se démène pour mettre, il faudrait quand même... » Non. C'est que c'est une nécessité. C'est une nécessité d'être instruit par le Seigneur. Et quand j'ai manqué une occasion de l'être, on a une chance extraordinaire. Il y a quelques années de cela, si on manquait une réunion, c'était mort. Hein. Ou alors il fallait aller prendre les notes de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous pouvez même l'écouter avec votre casque en roulant en voiture. On n'a pas d'excuses, hein. Donc écoutez, parce que le Seigneur parle à son Église. Le Seigneur nous parle, il te parle à chaque fois. Il ne faut pas que tu rates une miette de ce qu'il a à te dire. Amen. Le peuple s'incline et se prosterne, le visage contre terre. Et il est dit devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'Esdras il lui avait fabriqué un estrade là, qu'il était là. Ce n'est pas devant Esdras qu'il se prosterne. On n'a pas à se prosterner devant un pasteur, devant une église. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est devant l'Éternel. Et de même, c'est devant l'Éternel que nous devons amener ceux qui ont soif. Devant l'Éternel et devant sa parole. Ce culte, moi... Il me fait penser et il laisse présager celui de la Pentecôte. Je ne sais pas combien il y avait de personnes. Je pense qu'il y en avait certainement plus que 42 000. Et quand Pierre s'est avancé, c'était incroyable. On est souvent émerveillé de voir qu'il y avait 3 000 conversions. Mais vu le nombre de personnes qu'il y avait, ce n'était pas tant que ça finalement. Hein. Mais c'était bien quand même. Et moi, je bénis Dieu de ce que quand le peuple a soif, eh bien, il donne sa parole. Amen. Le deuxième point, eh bien, c'est que les sacrificateurs et les lévites sont prêts et capables de répondre à la soif. Nous sommes tous sacrificateurs et lévites, je le rappelle. Il s'agit de nous. Et la question, c'est est-ce que nous sommes prêts pour un grand réveil ? C'est une question importante parce que Dieu envoie le réveil vers les gens qui sont prêts. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que s'il y a des milliers de personnes qui se convertissent, est-ce qu'il va falloir tous qu'ils passent un par un devant le pasteur pour comprendre le salut? Ou est-ce que tout le monde est prêt à expliquer les choses à ceux qui vont s'avancer? Est-ce qu'on est tous prêts? C'est une question importante. À la Pentecôte, les 120 venaient de passer 10 jours dans la présence de Dieu. Et plusieurs d'entre eux, parmi ces 120, avaient passé plusieurs mois, voire plusieurs années, aux côtés de Jésus. Ils étaient prêts. Amen. Ils étaient prêts. À l'époque de Néhémie, il y avait eu aussi un travail de restauration initié par Esdras aussi, et puis Néhémie ensuite. Et donc c'est pour ça que les gens étaient prêts. Sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts? Si seuls les pasteurs et les anciens connaissent la parole et savent l'expliquer, c'est un frein à un réveil d'une grande ampleur. C'est sûr. Et cela nous responsabilise, en nous disant que nous ne sommes pas appelés à être simplement des lecteurs de la parole. disant, je lis mon petit verset tous les matins, nous sommes appelés à être des enseignants de la parole. Oh, mais pasteur, vous êtes fou, quoi. Moi, je n'ai pas fait d'études. Bon ? Vous voulez que je vous cite une liste de noms de personnes qui n'ont pas fait d'études, qui sont aujourd'hui des pasteurs et des grands orateurs qui réunissent les foules, parce que le Seigneur les a saisis par son esprit. On l'a chanté, et vous l'avez chanté, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Donc si tu t'appuies sur ton niveau d'études, tu as tout faux. Ou ton non-niveau d'études. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si tu es rempli de l'esprit et si tu lis la Bible et si tu cherches Dieu dans sa parole, tu vas pouvoir être cet instrument entre ses mains. Amen. En fait, la question, c'est peut-être aussi, est-ce que nous, on a soif avant que les Français aient soif? Est-ce que nous, les chrétiens, on a soif? Eh oui, si nous, on a soif, on va se la dévorer, la parole. On va se la boire. Wouh! On va se rafraîchir. On va se laisser imprégner, imbiber de la parole. Amen. Et une fois que vous avez tout ça, quand on va vous parler, eh bien le Seigneur va vous aider. Mais il faut continuer à être rempli de l'Esprit. Vous savez, on n'est pas toujours rempli de l'Esprit. L'autre fois, moi j'ai demandé pardon au Seigneur. J'étais sur le marché et je me suis fait interpeller par un gars de Force Ouvrière là, qui voulait me donner un traité par rapport aux retraites. Tout ça. Puis j'ai parlé avec lui, mais J'ai été nul. J'aurais pu saisir l'occasion vraiment de lui rendre témoignage et de lui dire, mais le changement n'aura pas lieu avec des changements de politique, avec des hommes. C'est le changement de ton cœur qui doit... J'ai regretté, j'ai dit, mais en fait, vous savez, vous allez faire le marché, voilà, vous êtes plus dans le truc, et en fait, c'est dommage. J'ai demandé pardon au Seigneur pour ça. Parce qu'en fait, si je vais sur le marché, je dois être prêt. Dire, Seigneur, si jamais je rencontre quelqu'un, s'il y a quelque chose, je veux être prêt. Amen. Ici, à l'époque de Néhémie, il y a eu un travail de restauration. Et nous avons besoin d'être restaurés dans notre soif. Plusieurs m'ont partagé cela ces derniers temps. Pasteur, on n'a plus envie de lire la Bible. On n'a plus envie de prier comme avant. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais le Seigneur a rappelé par des dons spirituels ce matin qu'il veut restaurer ceux qui sont en difficulté. Amen. Au verset 2, il est dit, c'est le sacrificateur Esdras qui lit la loi devant l'assemblée. Il va la lire, verset 3, du matin jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire qu'il va la lire pendant au moins 6 heures. Vous rendez compte, tout le peuple, sur une place pendant 6 heures en train d'écouter quelqu'un qui lit la loi, pas quelqu'un qui... Il faut avoir soif. Hein. Et nous, on s'envoie sur YouTube. Oh, regardez aux États-Unis, là, ça fait je ne sais pas combien de jours qu'ils sont en train de prier et tout ça. Oh, c'est formidable. Puis nous, quand il y a le culte, on fait... Très ou pas? Eh oui. Donc moi, si j'ai pas envie de regarder ce qui se passe aux États-Unis, moi, c'est bien, tant mieux pour eux. Moi, je veux ça en France. Amen. Je veux ça dans mon église, à Colomiers. Amen. À Esdras, on voit au verset 4 qu'il est entouré de tous les sacrificateurs, et pas tout seul. Il y en a 6 à sa droite, 7 à sa gauche. Je vous laisse faire les interrogations concernant ces chiffres. Ce n'est pas l'objet ce matin. Avant la lecture, Esdras bénit Dieu. Il y a un temps de prière, toujours. Quand on doit transmettre le message, il faut prier parce qu'on doit à chaque fois montrer que ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc toujours prier avant de transmettre le message. C'est bien pour les prédicateurs. Moi, évidemment, j'ai prié avant de monter ici. Mais vous aussi, vous devez prier. Parce qu'on ne prêche pas que quand on est là sur l'estrade. Prêcher, ça veut dire partager la bonne nouvelle, qui est Rousseau. Et c'est tout le monde qui peut le faire, sur son lieu de travail, partout, vous le savez. Au verset 7 à 9, il est parlé de plusieurs lévites qui vont expliquer la loi. Donc on peut supposer qu'il prenait des petits groupes comme ça et qu'il leur expliquait la loi. Mais vous comprenez, en tous les cas, on pense que ça, si vous lisez le verset 18, vous verrez que ça a duré au moins 8 jours, cette affaire-là. Parce qu'évidemment, 42 000 personnes, pour les enseigner tous, bah, il a fallu faire des petits groupes. Et je ne sais pas comment ils se sont organisés, mais ils ont pris le temps. Ils avaient le temps. Ils ont dit, c'est notre priorité. Et on voit que l'œuvre de l'Esprit commence pour préparer à la nouvelle alliance, parce qu'on voit que d'un seul coup, l'élément central du culte, pour l'instant, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu, on a parlé des modes de sacrificature, toutes ces rites, etc. Là, ici, il n'est plus question de sacrifice. Le centre du culte, c'est quoi ? C'est la parole. C'est la parole. Et ça préfigure la nouvelle alliance, où c'est Jésus, la parole faite chair, qui vient. Et qui vient régner sur nos cœurs, et qui nous dit, alors que c'était déjà dit dans l'Ancien Testament aussi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et on est au-dessus, quand on est à l'écoute de la parole et quand on fait la volonté de Dieu, on est bien au-dessus des sacrifices. Parce qu'on peut faire des sacrifices à Dieu. Vous pouvez faire un chèque de 100 000 euros à l'église. Hein. Oh, j'ai fait un gros sacrifice. Et c'est bien. Sauf que, au niveau individuel, au niveau de votre cœur, ça n'apporte rien. On est d'accord avec ça. Le sacrifice que vous faites ne vous apporte rien. Ce qui touche votre cœur, c'est la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui accompagne la parole. Amen. Et le dernier point, ben justement, c'est que la parole qui est communiquée par... J'ai mis par des experts, c'est peut-être un peu exagéré, mais la parole qui est communiquée par des experts sous l'onction a un effet surnaturel dans le cœur des gens. Bien sûr, Dieu fait grâce. Alors, c'est diapo 38. Dieu fait grâce à tous ceux qui sont peut-être, on l'a dit tout à l'heure, en difficulté pour être capable d'étudier la parole, etc. Donc, vous voulez dire, moi, je ne peux pas être un expert de la parole. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que Dieu peut ouvrir ton intelligence. Moi, je peux vous dire, ton intelligence, je peux vous dire, j'ai entendu des experts de la parole. Je fais des formations en tant qu'aumônier dans tous les milieux protestants. J'ai entendu des gars, mais je ne vous dis pas, la connaissance qu'ils ont et les trucs qu'ils savent sur la Bible, moi je me sens tout bête hein, à côté d'eux. Sauf qu'on perçoit ces gens-là que leur cœur et leur vie n'a pas été changé. Ils sont juste dans une connaissance intellectuelle. Mais ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés. Et les gens, ils ont besoin de voir des gens qui ont eux-mêmes été touchés. Et je regardais un reportage sur les évangéliques dernièrement où il disait que c'est notre force. C'est notre force à nous. C'est que les gens vivent tous une expérience personnelle. Ils ne sont pas en train de parler d'un dogme, ils parlent de ce qu'ils ont vécu, ce que Dieu a fait dans leur vie. La parole communiquée, la parole de Dieu avec le Saint-Esprit est créée des effets surnaturels dans nos vies. Amen. Et c'est de ça dont tu as besoin pour être changé. L'effet qu'il y a eu, c'est au verset 9, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Vous savez pourquoi ils pleuraient ? Parce qu'ils se rendaient compte que ben, tout ce que Dieu avait dit, ils n'ont rien fait de ce que Dieu avait dit. Ils ont tout oublié, ils ont tout mis de côté. C'est pas nous, hein, bien sûr. Nous, on n'oublie rien et on fait tout ce que Dieu nous dit. Les sacrificateurs ont d'abord eux-mêmes été touchés. À la fin du chapitre 2 de Néhémie, on voit que Néhémie va leur parler. Il a fait le tour des murailles dans la nuit en secret. Puis à la fin, il va vers eux et dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et il est dit, tous, d'un seul cœur aussi, là, ils résolurent de se mettre à l'œuvre. Et puis on voit que ça ne tarde pas. Chapitre 3, verset 1, Néhémie chapitre 3, verset 1, Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, et ils la consacrèrent, et en posèrent les battants. Amen. Et oui, les sacrificateurs, ils se sont bougés. Et les sacrificateurs aujourd'hui, c'est nous. Quand ils lisent eux-mêmes la loi, ils se l'appliquent, et après ils l'expliquent. On le voit au verset 8, on ne va pas le reprendre, mais il est dit qu'il lisait la loi et au fur et à mesure qu'il la lisait, il s'arrêtait et il l'expliquait. Donc ce qu'ils expliquaient, ben, c'est que ce en quoi ça les touchait à eux. À nouveau, on peut faire le parallèle avec la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 37, il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et la difficulté dans la durée pour un chrétien, c'est de continuer à se laisser toucher. Vous avez des gens qui écoutent des prédications. Vous savez, si on fait une petite statistique, hein, si au moins vous venez au culte tous les dimanches, allez, en comptant les vacances et les week-ends de temps en temps, allez, au moins, au minimum, vous écoutez 40 prédications par an. C'est vraiment le mini. Si on rajoute les études bibliques, on peut doubler. Vous multipliez ça par le nombre d'années que vous êtes converti. Vous vous rendez compte combien de prédications vous avez entendues? Mais en fait, lesquelles ont touché votre cœur? C'est ça la question. Parce qu'on en entend. Et vous savez, comme on dit, ça passe. Et je parle pour moi aussi. Hein. Combien de fois Dieu nous parle et on n'est même pas touché? Et vous savez, cette parole que Dieu dit, on donnera à ceux qui ont et on retirera à ceux qui n'ont pas. Moi, je suis impressionné à chaque fois quand il y a des interpellations de la part de Dieu. Ceux qui se lèvent, ceux qui répondent présents, c'est ceux dont on a l'impression qu'ils en ont le moins besoin. Mais en fait, c'est ceux qui sont proches de Dieu, qui sont à l'écoute, ils se laissent tout le temps interpeller. Et puis les autres, on se dit, ah, avec le message qu'il y a, à un tel, ça va le toucher, il va... Ben non. Non. Ça reste... Et je crois qu'on a besoin vraiment de... Je vous invite, mes frères et sœurs, vraiment, à prier. Seigneur, que ta parole me touche encore. Que ta parole me touche encore. Que ta parole me bouleverse encore. Ça peut être la 3 millionième prédication que j'écoute, je m'en moque, je veux que me touche. Je veux que ça fasse encore un effet dans mon cœur. Amen. Les apôtres eux-mêmes ont été touchés. Pierre a été touché avant de faire cette prédication. Ce n'est pas une prédication basée sur les études de théologie. Hein. Il a été touché par ce qui s'est passé. Il a vu son maître être arrêté. Il l'a renié et puis il l'a vu ressusciter et il a eu un entretien avec lui. Et cet entretien était plein d'amour au lieu d'être un entretien plein de reproches. Mais combien le cœur de Pierre devait être bouleversé. Et lui, je vous assure, quand il a parlé, ça a dû être extraordinaire. Nous, on a juste les paroles, mais on n'a pas le ton, on n'a pas le contexte, mais ça a dû être extraordinaire. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu un tel bouleversement. Est-ce qu'on croit que la parole de Dieu peut encore toucher les cœurs? Est-ce qu'elle peut toucher nos cœurs? Est-ce qu'elle peut toucher le cœur des non-croyants pour les convaincre de péché? Amen. Nous devons le croire. On va conclure ces moments. Je termine par une précision importante au verset 9. Néhémie, Esdras et les Lévites pour encourager le peuple et leur dire « Ne soyez pas dans la désolation », le terme qui est employé même, c'est « deuil » et les larmes. Parce que c'est vrai, quand on est convaincu de péché, peut-être certains ont pleuré ce matin devant leur péché. Eh bien, le Seigneur te dit « Ne reste pas dans les larmes. » Ne reste pas dans les larmes. Parce que le but du Seigneur, c'est pas de nous faire pleurer. Hein. Le but du Seigneur, c'est de nous transmettre sa joie. Sa paix. Amen. Et je crois que cette attitude des responsables spirituels du peuple, elle est hautement spirituelle. Non, 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 vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas passer votre temps à pleurer. Pourtant, ils auraient dû dire, ah, le Seigneur a touché. Ouais, quand vous prêchez, là, les gens, ils pleurent. Vous dites, ah, le Seigneur est bon, il a touché. Etc. Non, on n'est pas là pour pleurer. On se relève. Le Seigneur nous relève. Amen. Alors bien sûr, il y a eu le temps des pleurs, hein, il a été accepté, mais on ne reste pas dans les pleurs. Amen. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et si on se sert de discours de culpabilisation, si on manipule les gens par les peurs, comment voulez-vous les amener à se réjouir? Et puis, vous allez dire, oui, mais ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de ceci, j'entends ça. Hein. Mais quand on fait ça, on prêche la loi. On ne va pas revenir à la loi quand même. Avec tout ce que Jésus a fait pour que la loi soit accomplie. Elle n'est pas abolie, elle est accomplie. Et par le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous sommes appelés à accomplir la loi. Amen. Le message de repentance doit être accompagné de la bonne nouvelle du pardon et de la restauration. De la bonne nouvelle de la nouvelle naissance. Parce que s'il n'y a que le message de la repentance, on prêche la loi. Bien sûr, il faut le message de la repentance, mais il faut le reste aussi avec. Je termine par un texte que j'ai trouvé dans le prophète Malachie, chapitre 2, verset 7, qui doit nous interpeller. Nous sommes tous sacrificateurs, je le rappelle. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Waouh! Ah, quelle responsabilité! Et je vous invite à lire les versets qui précèdent, à partir du verset 45. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et ainsi il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Amen. Et ensuite, il est dit, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Oh, la responsabilité qu'on a, elle est extraordinaire. Elle vous pèse, vous ? Mais non, on a une responsabilité extraordinaire. J'ai eu l'occasion, dans un colloque auquel on m'avait invité sur l'aumônerie des prisons, de dire, mais c'est extraordinaire d'être aumônier de prison. Parce que pour certains détenus, la seule chance qu'ils ont, c'est Dieu. Donc c'est nous, les aumôniers. Pas parce que c'est nous qui pouvons les sauver, mais c'est nous qui les amenons vers celui qui peut les sauver. C'est un travail extraordinaire. Il n'y a plus aucune chance. La société ne leur donne plus aucune chance. Certains ne peuvent pas changer. Leur cœur est trop mauvais. Le seul qui peut faire quelque chose pour eux, c'est Dieu. Et moi, j'ai envie qu'on dise, il a marché dans la paix, dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Waouh ! Mais c'est ça ton destin. Tu es sacrificateur. Amen. Tu es sacrificateur. C'est les gens vont venir te voir pour te demander, explique-moi la parole. Si ça ne vous est pas déjà arrivé, priez Dieu que ça vous arrive. Et oui, les gens doivent venir vous voir. Explique-moi la parole. Amen. Oula, vous êtes... Et oui, c'est une chose que j'ai dit souvent, hein, quand on nous dit vous êtes des rois et des sacrificateurs, on est là. Puis après, quand on voit tout ce que ça implique, tout le monde fait... Mais non, mais c'est une super responsabilité. Il ne faut pas que ce soit un poids. Ça ne pèse pas sur nous, tout ça. C'est juste l'élan de notre cœur qui doit être là. Le Seigneur, il fait le reste. Toutes les expériences extraordinaires, les gens à qui j'ai pu parler et qui ont changé de vie et tout ça par la parole que je leur ai transmise. Mais vraiment, je vous assure, à aucun moment je peux m'imaginer que c'est venu de moi. Nous sommes que des faibles instruments, mais on est appelé à l'être. C'est trop bon de l'être. C'est trop bon d'être un instrument comme ça. Et il ne faut pas que vous passiez à côté, mes frères et sœurs. Vous êtes en responsabilité, en première ligne, sur vos lieux de travail. Les ados, les jeunes, les enfants, dans vos universités, dans les lycées, les collèges, les écoles primaires. C'est à vous de témoigner. Vous êtes les sacrificateurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Juste deux dernières diapos. Vous vous rappelez 2022 ? Retour à la parole. Hein ? Et puis 2023, année de la moisson. Ben, ça marche ensemble. Mais attention, on peut dire année de la moisson, mais si on n'a pas fait ce qu'on devait faire en 2022, vite, rattrapage. ça va être important. Ok ? D'accord ? On prie ensemble ? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce rappel que tu nous fais ce matin. Seigneur, c'est extraordinaire que tu nous aies tous appelés sacrificateurs. Tu mets personne de côté. Dans ce monde, il y a tellement de gens qui sont mis de côté. Toi, tu ne sais pas faire, toi, tu ne sauras pas, toi, tu n'es pas capable, tu es trop grand, tu es trop petit, tu n'es pas la bonne personne. Toi, Seigneur, tu veux impliquer tout le monde. Tous tes enfants, tu veux te servir d'eux. Je prie, Seigneur, pour cette Église, pour chacun de nous, afin que même parmi les adolescents, il y ait des experts de la parole, au sens où nous l'avons défini aujourd'hui. Je prie qu'il y ait cette soif, d'abord ici au milieu de nous. Et alors qu'il y a cette soif autour de nous, nous voulons être prêts, Seigneur, pour répondre, pour donner à boire à ceux qui ont soif. Seigneur, viens visiter ton Église encore. On peut se lever tous ensemble et prier, Seigneur, viens, viens, Seigneur, nous restaurer dans notre soif de connaître davantage qui tu es, de connaître ta parole. Viens nous restaurer, viens nous réveiller, on l'a chanté ce matin, éveille, éveille nos âmes, éveille nos cœurs. Seigneur, restaure tous ceux qui ont perdu tout cela. Seigneur, ça n'est pas fini. Seigneur, tu veux lever une armée de prédicateurs pour que tous ceux qui ont soif autour de nous puissent trouver des hommes, des femmes qui leur donnent à boire. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci de ce que tu veux faire de ton Église. Merci de ce que tu veux faire de chacun d'entre nous, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Je te prie pour les personnes les plus âgées, redonne-leur ce feu. Tu n'en as pas fini avec personne ici. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta présence. À toi la gloire, à toi la gloire. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Seigneur est bon, il est grand. Amen.